femmes. Un baiser me tuerait. Si la beauté n'était la mort.
Artichaut.
L'artichaut. La causerie culturelle de Radio Campus Angers.
Cela ne doit pas vous troubler, monseigneur, car l'inquiétude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales.
Un lundi sur deux, de 19h à 20h.
La culture outragée. La culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous, toujours le lundi, et il est lui aussi corona compatible, mais non corona corruptible. Au menu de ce 111e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Andréa Lemaire. Vous êtes parmi les livres dans l'artichaut.
Artichaut.
Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était chez un ami commun. Et on va le citer parce qu'il souffre en ce moment comme tous les restaurateurs. C'était chez notre ami Romain de ma petite cantine, donc on lui passe le salut. Et déjà, il me parlait de son projet, disons un peu fou. Fou parce que créer son commerce est toujours une aventure rocambolesque. Fou parce que créer une librairie, galerie l'est encore plus. Mais sa passion et sa compétence a fidélisé ce qui est aujourd'hui la communauté Myriagone. Bienvenue Andréa Lemaire.
Merci pour l'invitation.
Mais c'est avec plaisir. Alors, je vais juste avant de commencer l'émission, je vais encore abuser des ondes pour un tout petit message personnel, parce que la dernière fois, ça tombe l'enregistrement. Comme l'auditeur sait qu'on enregistre, parce qu'avec le couvre-feu, on ne pouvait pas être là le lundi à 19h. L'enregistrement se déroulait le jour de l'anniversaire de mon père. Mais là, c'est le jour de la diffusion de l'émission, le lundi 26 avril. Donc, je souhaite un bon anniversaire à Colette, qui est ma mère. Voilà. C'est fait. Et puis samedi, alors comme nous sommes le mercredi, donc c'est des failles spatio-temporelles. Hein. Donc samedi qui vient, mais c'était samedi dernier pour les gens qui écoutent cette émission, c'était la fête des libraires. On est quand même dans le ton. Andréa, donc, question rituelle, où es-tu née?
Je suis née à Saint-Nazaire, donc je fais quand même partie du Grand Ouest, mais je suis une pièce rapportée à Angers.
D'accord. Autre question rituelle de l'émission, c'est est-ce que tu as un souvenir d'une première rencontre avec la culture, au sens large du terme, c'est-à-dire ça peut être une rencontre livresque, musicale, théâtrale?
Non, c'est toujours les questions compliquées, mais je dirais en tout cas une première rencontre, quelque chose qui moi m'a certainement marqué et a donné une direction, c'est en classe de CE2, ça remonte, mon institutrice qui, en guise de bon point, nous offrait des images. Et elle était folle d'impressionnisme. Et je me revois découvrir Renoir, Van Gogh, grâce à ces bons points. Et je sais pas, j'ai plongé, quoi. J'ai plongé, puis à partir de cet âge-là, je devais avoir 7 ans, 8 ans, j'ai demandé des livres de peinture pour mes anniversaires. Et ça a commencé comme ça. Mes contacts avec le livre ont commencé comme ça. Après, j'ai des grands frères, donc ils ont continué de faire le travail et de me nourrir, mais voilà.
Et une question un peu proustienne, est-ce que tu as le souvenir de la sensation que ça te faisait à l'époque et que tu peux aujourd'hui, sur laquelle tu peux aujourd'hui mettre des mots?
Ah, c'est pareil, quand j'entends des artistes ou des gens parler de leurs sensations, des poils qui se hérissent et tout, je trouve ça hyper fort. Mais moi, j'ai l'impression de ne pas avoir ressenti ça, plutôt une espèce vraiment d'ouverture intérieure, vraiment dans le niveau cérébral, quoi. Un truc où on découvre qu'il y a des choses qui peuvent être faites d'une certaine manière, une façon de penser, une façon de. Un rapport au monde, mais en fait, sans que ce soit facilement verbalisable. Enfin, j'ai pas de sensation du type vraiment. Ouais, les poils qui se hérissent ou un truc. Vraiment corporel, mais c'est plutôt au niveau cérébral, ouais, prendre conscience que le monde il est partout en dehors de moi et qu'il n'y a plus qu'à l'arpenter, quoi. Enfin, il y a un truc de ce style en fait.
Ah, c'est assez tôt un rapport pas intellectuel, mais le mot est peut-être un peu...
Ouais, c'est fort pour moi, je parlerai pas d'intellectuel, mais en tout cas, oui, quelque chose qui tend à chercher, quoi.
Plus analytique que,
oui, c'est ça.
Que sensoriel.
C'est ça. Puis j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc je suis resté beaucoup plus tard, mais dans le rapport plutôt à l'analyse, ouais.
On va revenir un tout petit peu avant les études, parce que le parcours est important. J'aime bien me poser cette question, et l'école, comment ça se passe, l'école ?
Écoute...
Et où, d'ailleurs ?
Je suis né, j'ai grandi à Saint-Nazaire, donc jusqu'à mon école primaire, collège, lycée, jusqu'à Saint-Nazaire, enfin à Saint-Nazaire, jusqu'au bout. Ni bon ni mauvais, vraiment le garçon typique, tu sais, milieu de gamme. J'avais pas besoin de trop bosser pour m'en sortir. J'ai pas redoublé, j'ai fait une scolarité normale, mais j'ai pas dû, je pense. Alors j'ai certainement pas dû marquer mes profs de maths, ou alors pas dans le bon sens, mais voilà, je pense que j'avais pas besoin de travailler, je me maintenais un peu au-dessus de la moyenne histoire que ce soit tranquille, et puis voilà. Et puis avec forcément, j'allais dire, vu mon métier aujourd'hui, mais plutôt quand même plutôt un profil littéraire, quoi, en français et tout ça, j'ai vraiment jamais eu de problème. Et voilà, et puis avec des choix au lycée, option ES, voilà. Je suis pas allé en lettres, mais vraiment un peu la voie du milieu tout le temps, quoi.
Mais il y a un premier choc littéraire dans ces années collège-lycée. Est-ce que tu as le souvenir d'un... je parle de choc esthétique, donc toi, chez toi, plus analytique que... Encore une fois que sans soleil, mais est-ce que...
Non, quand même, des questions d'ambiance. Mon grand frère, qui a 10 ans de plus que moi, donc c'est bien occupé de me nourrir au moment où il fallait, et notamment pour mes 10 ans, il m'a offert, il est arrivé avec 5 ou 6 bouquins de H.G. Wells dans les mains, dont je me rappelle L'île du docteur Moreau, La guerre des mondes, voilà. Et je me les suis envoyés à cet âge-là. Et je me rappelle qu'en 6e, j'ai fait, pendant que mes petits camarades faisaient des fiches de lecture sur les chairs de poule, moi j'arrivais avec H.G. Wells dans ma main.
Assez classe quand même.
Grâce à mon frère, mais. Et ouais, je me rappelle de ces ambiances-là, c'est pareil, là c'est des trucs, tu te dis, mais. Waouh, c'est fou quoi, c'est noir, c'est crépusculaire, vraiment La guerre des mondes, c'était un truc de dingue. Et c'est arrivé en charrette là, à l'endroit où la fameuse comète, il pense, est arrivée, en fait c'est un vaisseau spatial. Fin 19e siècle, en fait c'est ça, tout est transposé dans le temps, puisqu'il a écrit, ça. Il y a fort longtemps maintenant. Et il y a un truc qui m'a marqué et qui encore aujourd'hui, c'est des images que je trouve puissantes, quoi. Et quand j'en reparle à la librairie, à des gens, et notamment pour des jeunes lecteurs, jeunes lectrices, tu dis, mais ça, il y a tout là-dedans, quoi. Ça fait partie des choses qui m'ont marqué, donc assez jeune, 10 ans. Et ensuite, à 13 ans, la lecture d'Orwell, 1984.
Et on reste dans le même univers, quand même.
Je suis resté adolescent, SF et anticipation très vite. J'ai lu du Silverberg aussi, des choses comme ça. C'était mes frères qui m'alimentaient. Et le reste, après, ensuite, je dirais l'étape supérieure, c'est au lycée. Le passage par Camus, L'étranger, les trucs scolaires, mais où, pareil, là, des ouvertures plus analytiques, justement, quelque chose où tu dis, je pense que j'ai pas même tout saisi, mais il y a quelque chose qui me fascine. Et puis Beckett. Et puis Pérec. Ah oui, c'est ça. W ou Le souvenir d'enfance. Au lycée, que j'ai dû lire de mon côté, mais qui avait dû être conseillé. Et Beckett.
Beckett, c'est pas simple, je trouve, à l'adolescence. Si. J'ai pas de souvenir d'avoir. Je crois que je l'ai lu un peu plus tard. Mais...
Alors, du coup, c'était comme les pièces de Beckett. Hein. J'ai lu ses romans plus tard. Mais il y a quelque chose, en tout cas, dans le théâtre de l'absurde, et notamment vraiment chez Beckett, qui m'a fasciné dans ce rapport au langage, à l'écriture, et cette façon d'être complètement. J'avais l'impression que. Au lieu de faire du relief, de la bosse, de créer de la matière, qu'on en retirait et que c'était ce retrait de matière chez Beckett, une espèce de creux, quoi, le creux dans le langage, le fait que de dire que le discours il mène plus nulle part. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on s'est tous flingué la tronche comme on pouvait, on est arrivé à la solution finale, bombe atomique, on a tout. Où nous mène le discours en fait? Où nous mène ce rapport entre nous, l'humanité, elle est où? Et j'ai l'impression que... il y en a eu des thèses sur Beckett, donc je ne vais pas du tout faire en quelques minutes, mais en tout cas, au niveau de mes sensations, c'était ça, quoi. Et c'est ça qui m'a fasciné, et qui continue de me fasciner, c'est comment, quasiment en retirant vraiment de la matière, moi, c'est le premier truc qui me vient, on peut toucher l'abstraction et continuer de raconter très très fort des choses. Mais en fait, c'est des choses qui ne passent quasi... Enfin, ça passe par les mots, mais les mots ne sont plus vecteurs de sens direct. Tout est souterrain, en fait. Et pourtant, c'est là. Et en même temps, on touche à l'abstraction, c'est-à-dire qu'on ne voit plus forcément des formes très précises. Et pourtant, il y a un truc, c'est ça. Dès qu'on essaie de le préciser, de le verbaliser, de le sortir du livre, il y a une grande difficulté à le faire. Et pourtant, quand on est dans la lecture, tout fonctionne. C'est d'une cohérence, d'une homogénéité et d'une puissance. C'est phénoménal, quoi.
Ce que je trouve assez intéressant dans ces deux sources-là, l'anticipation et le langage, là, et l'absurde, et l'extériorité, c'est la peinture de monde nouveau, et l'intériorité, ce que tu viens de décrire. Est-ce que c'est un peu ces deux...
Tu touches un truc parce que je n'y avais pas pensé, mais oui, enfin, clairement, ce rapport en fait, entre vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous, et que ce soit nos mondes, nos espaces, nos sentiments, et le monde tel qu'on le construit par ça, par une forme de projection, et dans ce qu'on pense y voir, etc. Et du coup, ce qui nous échappe aussi, évidemment, dans l'anticipation, il est beaucoup question de ça, hein, ce qu'on fait en société, et comment la société nous enferme, etc. Mais il y a cette question de distance, en effet, moi, qui me pose question, et l'écriture, bah, c'est exactement ça, c'est... comment on sort et on met un peu à distance ou un truc qui est en nous et comment ça construit autre chose, comment on construit de la pensée, comment la pensée émerge, comment elle peut influer sur le monde ou au contraire essayer de raconter des choses. Mais il y a cette capillarité en fait. Où est-ce que le moi il se termine? Et voilà, après c'est des... Oui, ça, certainement, enfin, ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est des choses qui me pose question.
Est-ce qu'à cette époque, donc on est toujours préadolescence, adolescence, il y a une envie d'un métier, de faire quelque chose de sa vie? Pour qui, pourquoi?
Non, et non, parce que oui, voilà, une forme d'insouciance. Je faisais beaucoup de musique à l'époque, donc je faisais et j'écoutais plus de musique que je ne lisais quand même. Mais ça m'a nourri au même titre.
C'est passé par quoi la musique d'ailleurs? Par... Quel souvenir encore de choc?
Pareil, là, les grands frères ont été utiles. Pareil, je me rappelle mes premiers souvenirs musicaux, c'est à 6-7 ans. Je me rappelle en train de chantonner à l'école primaire un single du premier album de Garbage, par exemple. Tu vois? Et autrement, bah oui, à 10 ans, j'avais l'intégrale des Pixies. Je découvre.
À 10 ans, les Pixies? Mais moi, j'ai découvert ça.
Oui, mais quand t'as des grands frères, 10, c'est ça qui est utile.
C'est très, très pratique. Ouais. Ouais.
Et puis, les Beastie Boys à 10-11 ans aussi, License to Ill, enfin, tu vois. Et puis Massive Attack, et puis voilà, c'était vraiment les premiers chocs. Mais j'étais bercé voilà, entre 8 et 12 ans avec ça, quoi. Et les Smashing Pumpkins, hein, voilà, toute la scène bien 90s. Et puis après, moi, j'ai appris, mais c'est grâce à la musique surtout que j'ai appris à fouiller, à aller dans les bacs, à te démerder, à dire bah, qu'est-ce que c'est que cette pochette, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ce que j'ai appliqué, en fait, bah, malgré moi, hein, sans en être conscient, mais avec la littérature aussi après, apprendre à fouiller, à faire des ramifications, à dire ah, tiens, telle personne, elles ont travaillé ensemble, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, qu'est-ce qu'il y a derrière tel label, derrière telle maison d'édition. Enfin, voilà. Donc la musique. Du coup, au lycée, il y avait plus de musique que de lecture.
En pratique aussi?
Oui, je fais de la musique, quoi. Je pratique, je fais de la basse. Donc, j'ai tout de suite, tu vois, tu montes les premiers groupes au lycée, tu fais tes répétitions. Enfin, voilà, quoi, c'est rigolo.
C'était des groupes de quel style?
Ouais, c'était bien rock'n'roll, hein, ouais, c'était scène metal, tout ça.
Guitare, basse, batterie?
Ouais,
dans guitare. Un garage et on y va.
On avait les studios de répétition bien chouettes à Saint-Nazaire, les studios du VIP, qui était une salle oui. de concert très très bien. Et donc non, on était quand même bien lotis.
Et il y a l'envie d'aller dans cette voie? Ou c'est vraiment un délire de potes et...
Non, c'est délire de potes, mais forcément à ce moment tu te dis, tu rêves un peu, je pense comme tout le monde, tu te dis ah ça serait hyper chouette. Et puis tu t'investis en fait, tu te rends compte que t'es capable de mettre beaucoup d'énergie là-dedans et de professionnalisme, mais en tout cas une forme de sérieux en tout cas que tu mets pas forcément justement dans tes études. C'est-à-dire que là moi pour répéter les morceaux qu'on a composés et faire les entraînements, tout ce qu'il faut sur l'instrument tous les soirs pendant 3 heures quand je rentre de l'école, quand je rentre des cours, il n'y a pas de souci. Alors que pour préparer une dissertation ou essayer de comprendre ce qu'on m'a appris en maths dans la journée, voilà, c'était pas la même chose. Mais alors, au niveau professionnel, je pense que je suis resté la tête sur les épaules, mais je savais vraiment pas, hormis en étant vraiment complètement dans la musique et dans ses passions, je faisais aussi beaucoup de sport, j'ai pas réfléchi, ouais, il y avait l'insouciance, tu dis bon, on verra bien, et comme j'étais quelqu'un de curieux, je pense que j'ai laissé passer un peu le truc, mais jusqu'au moment où en fait tu te retrouves en terminale, quelques mois avant le bac à préparer du coup bon, qu'est-ce que tu veux faire, une prépa, une fac, machin, et à pas savoir du tout où aller. Et là il y a eu justement réflexion, et je m'étais dit journalisme,
Quel beau métier.
Et voilà, et du coup, bon, ça s'est pas fait comme ça, finalement, réorientation, tout ça. Mais au départ, j'étais parti vraiment plutôt sur un truc littéraire, d'écriture, mais en même temps, d'attrait, bah, encore une fois, le rapport à l'extérieur, quand même, le rapport au monde, et voilà.
Et est-ce que, pour clore un peu ce chapitre lycée, est-ce que tu pourrais me donner, parce que j'adore ces noms de groupes-là en fait, parce que j'en avais un moi aussi, alors là ça remonte à bien plus longtemps, mais c'était toujours, on jouait trois notes, moi je chantonnais deux, trois, on faisait des reprises évidemment, et après on essayait un peu d'écrire aussi. Et c'était la prise de tête sur les noms, tu as voulu toujours des noms. Est-ce que tu peux me donner des noms de groupes que...
Ben en fait je suis en train de chercher, je me dis c'est pas possible que j'ai oublié ça.
Ah non, c'est dans un coin de ta tête, c'est ça.
Bah oui, c'est pour ça que je me concentre.
Ça va revenir. C'est quand on y pense.
Je te dirais, je sauterai sur le micro.
T'as la fin de l'émission pour.
Ah, mais c'est fou, c'est vrai que c'est quand même. Bon,
pense à tes potes en plus.
Bah, c'est ça.
Et s'ils t'écoutent, il a oublié le.
J'allais dire, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 20 ans quand même.
Ça va revenir.
Ouais, ok.
Donc ce choix, t'as le bac.
Ouais. Et je voulais faire une prépa lettres pour journalisme, pour préparer journalisme et tout ça. Je suis refusé parce que justement, élément pas méchant, mais pas très travailleur. Donc forcément, les notes n'étaient pas hyper mauvaises, mais pas super bonnes. Et surtout, les appréciations pas excellentes non plus. Et je me retrouve en fac de droit parce que j'ai un professeur qui daigne un peu me voyant pas hyper bien à me faire recaler des prépas, qui daigne un peu me répondre à mes questions, mais pas non plus hyper, hyper impliqué. Les autres, je sais pas où ils étaient, mais j'en veux un petit peu d'ailleurs au corps enseignant, parce que j'étais pas un garçon méchant par contre, hein. Je parlais un peu en classe, mais à part ça, j'étais quand même actif. Et je me dis, si même pour un élève aussi facile, entre guillemets, que moi, il n'y a déjà pas eu trop d'accompagnement, je me dis mais qu'est-ce qui se passe pour ceux qui et celles qui sont dans des situations plus difficiles. Alors j'ose espérer que du coup justement on les prend un peu plus en main, j'espère que c'est ça, mais et donc bon bref, du coup un prof qui me dit bah, en fait t'as le choix vu à peu près ton profil, fac de droit ou fac d'histoire quoi. Personne m'a posé la question, mais Andréa, qu'est-ce que y a des trucs que tu kiffes dans la vie, tu t'intéresses à quoi? Bon, ça aurait pas été compliqué en plus. Mais du coup, je suis parti en fac de droit et ça a fait, ça a pas fait long feu. J'ai fait un an que j'ai redoublé en validant juste les trucs qui m'intéressaient, c'est-à-dire deux ou trois matières. Je repique et puis quand j'ai redoublé, j'ai dû faire deux ou trois mois et puis j'ai arrêté et puis j'ai refait quasiment une année d'intérim avant de me réorienter quoi.
C'est que des mauvais souvenirs là. C'est cette année et demie où t'en gardes quand même.
Non, c'est
un
toujours...
ou deux côtés positifs.
Je suis plutôt dans un naturel positif, donc je me rappelle même après les périodes compliquées de ma vie, je me rappelle des bons moments. Donc non, et puis ça fait partie du cursus, on apprend des choses. Moi, le droit m'a au moins appris une chose, c'est la rigueur. Dans l'argumentation, dans de ne pas partir dans tous les sens, de quand on pose un point, on y répond. Et justement, ça m'a même été... quasiment directement utile après pour les études que j'ai entreprises après, donc histoire de l'art, on va y revenir, mais parce que justement ça permettait de rester, de pas trop s'éparpiller quoi. Tu poses un point d'analyse, tu réponds, tu argumentes et tu avances petit à petit, mais du coup t'as ton argumentation et t'as le regard que tu portes sur les choses semble assez stable et posé. Et voilà, et puis après c'est toujours intéressant de faire du droit constitutionnel, du droit de la famille, enfin de un peu mieux comprendre comment notre société elle s'est construite, elle s'est régie, enfin l'histoire du droit aussi. Bref, oui, non, c'est, tu te dis toujours, bon, j'aurais pu gagner un an et demi, mais sur le cursus final, tu te dis, bon, en fait, j'aurais été où pendant cette année et demie? J'aurais bien été quelque part, mais c'était pas plus mal. Puis j'ai rencontré des gens très chouettes.
Et donc intérim pour bosser quand même. Et ça bascule tout de suite Beaux-Arts.
Mon grand frère, donc, dont j'ai déjà parlé pas mal, là...
T'es toujours sur Saint-Nazaire, là?
J'étais à Nantes à faire mes études.
Ah non, c'est à Nantes.
J'étais parti à Nantes, et je reviens donc pour faire l'intérim à Saint-Nazaire. Et donc après cette quasiment complète année d'intérim, justement, je me dis, bon, on va pas faire ça toute sa vie, je me réoriente, mais je fais quoi? Le contexte personnel n'était pas évident au niveau familial, donc bon, bref, un peu paumé, et mon frère aîné me dit, pourquoi tu tenterais pas l'architecture? Moi j'ai l'impression que tu... Donc mon frère est architecte. Du coup, comme on a 10 ans d'écart, il m'emmenait, il m'a fait, quand je sais pas, il avait 20 ans, j'en avais 10, pareil, il me montrait la villa Jeanneret, les bâtiments du Corbus, de Wright, enfin bon, bref, des trucs autant dans les livres qu'en vrai, donc... Et il m'a permis de développer un regard aussi, et il me dit, bah, ça serait peut-être une bonne idée. Je tente, je fais une candidature, je suis recalé. Et alors là, du coup, au début de l'été, quoi. Et tu dis, bah, qu'est-ce que je fais l'année prochaine, c'est pas possible. Et puis là, de nouveau, mon frère qui me dit, mais histoire de l'art, y a pensé. Enfin, franchement, je débarquais, je connaissais même pas l'existence des facs d'histoire de l'art, quoi. Et du coup, je dis, bon, ouais, c'est une bonne idée. C'est, ouais, carrément, ça semble correspondre. Et puis, c'était dans l'idée de faire un an pour retenter une candidature en archi. Et puis, en fait, à peine arrivé, je pense, j'ai dû faire 2 jours de cours en histoire de l'art. Et j'ai fait, non, mais en fait, je vais rester. Là, je me suis complètement découvert. Et j'ai travaillé en cours sans en avoir même l'impression, quoi.
Et c'est important de tout ce parcours parce que ça... Ça prouve aussi aux jeunes gens que c'est pas parce qu'on a une année un peu d'errance ou qu'on se trompe de qu'il faut désespérer. Il faut vraiment trouver sa voie et peut-être ne pas insister. Et j'en parlais avec le chorégraphe Noé Soulier, qui avait je cite cet exemple parce qu'il m'avait marqué, qui avait été pris à l'Opéra de Paris et qui avait fait quelques semaines et qui avait dit c'est pas mon endroit. Alors que pour être pris dans ce genre, faut quand même un peu de sacrifice. Et il disait ça. Qu'il fallait parfois pas insister parce que ça pouvait provoquer beaucoup plus de malheur, de tristesse à long terme que de dire je me suis trompé et je repars sur. Donc on est un peu dans cet esprit là où c'est une révélation et en même temps une évidence.
Ouais, bah en tout cas je pense que c'est après c'est mon expérience personnelle qui me fait dire ça, mais que faut toujours oser passer un cap, sauter le pas, quoi, quand on sent quelque chose, qu'on le sente ou qu'on le sente pas d'ailleurs. Ne pas hésiter à quitter une situation qui est, mais que ce soit même d'un point de vue sentimental quasiment, ou professionnel, ou au niveau des études, s'il y a un truc qu'on sent pas, qui marche pas, enfin, il faut se donner du mal pour que ça puisse fonctionner, parce que parfois ça ne tient qu'à nous, mais parfois, si au bout d'un moment on sent que on est vraiment pas à notre place, pas hésiter à quitter cette situation pour retrouver la situation dans laquelle on aura du plaisir, des compétences et où on sera à notre place et du coup efficace en tout, quoi, un truc et où l'humain passera mieux, enfin je sais pas, ça c'est des trucs, même quand une fois de faire l'intérim, hein, ça remet les pieds sur terre et tu comprends.
Ouais, j'allais te demander d'ailleurs. Pareil, c'était moi j'ai jamais eu l'obligation, je le dis parce que voilà, j'ai toujours été un peu privilégié, mais j'ai toujours eu un peu peur. Ouais, j'ai l'impression que ça broie un peu les hommes.
Mais en fait, bon,
ça dépend des
ça postes, dépend d'où tu viens. Quand tu sais que c'est un passage de ta vie et que tu feras pas ça tout le temps, c'est différent. Donc moi j'avais cette chance là, mais non, franchement, moi je suis content d'avoir fait ça. Ça remet, c'est vraiment, déjà on rencontre des gens qui sont pas forcément du même milieu social, ce qui est important quand même. Continue de rencontrer des gens qui viennent pas des mêmes endroits, on continue d'apprendre beaucoup de choses, on évite de se sentir supérieur parce que nous on est capable d'aligner 3 mots sans faute d'orthographe, mais on est en face, on sait pas tenir une perceuse ou des trucs comme ça, parce que voilà, les jobs en intérim, j'ai fait plein de trucs, c'est du manuel, du physique et tout ça, mais quand t'arrives, t'es juste inutile, quoi. Enfin, il faut être utile d'ailleurs dans la journée, parce que je faisais que des petites missions en plus, mais ça évite de se sentir fort parce qu'on maîtrise un pan de quelque chose, quoi. Et du coup, ça pousse aussi vraiment à continuer de respecter tout le monde, le travail de chacun, de comprendre que dans chaque pan de la société, il y a, encore une fois, il y a de l'humain et il y a des choses que, parfois qu'on ne peut pas envisager. Par exemple, quand on voit un serveur, je repense à notre ami commun Romain qui est restaurateur, je me dis, beaucoup de gens vont au restaurant sans même comprendre ce qu'il y a derrière le service, derrière la restauration, comprendre à quel point c'est des métiers qui sont tendus, nerveux, où on est tout le temps en train de penser à 10 tâches en même temps, enfin voilà. Et ça apprend ça, en fait, de faire des petits métiers auxquels vers lesquels on n'était pas censé aller. Et ça construit beaucoup. C'est encore une fois le rapport à l'autre et à soi-même. C'est-à-dire que respecter les autres, comprendre que c'est jamais aussi facile et simple que ça en a l'air, voilà, de faire ce que les autres font en face, ou ce qu'ils sont, et en même temps être capable d'avoir assez confiance en soi pour dire je peux quitter cette situation ou aller vers ça. Je peux me réaliser, je suis quand même capable d'apprendre vite, ou au moins voilà, d'oser aller vers un truc qui m'attire, quoi.
Vous êtes bien dans l'artichaut avec le libraire et galeriste, Andréa Lemaire. Tu vas nous présenter la pause musicale ? Qu'as-tu choisi,
André ? Alors j'ai choisi un... Ne bouchez pas vos oreilles tout de suite, s'il vous plaît, parce que ça va être très chouette. C'est un morceau qui s'appelle Procession, tiré d'un album du nom de Cohorte, et le projet s'appelle Institutrice. Institutrice, c'est la réunion de deux personnes, J.B. Geoffroy, qui était connu comme étant le batteur d'un groupe tourgeau qui s'appelle Pneu. Et Eric Benz, dont je connais, je dois avouer, je connais beaucoup moins l'itinéraire, mais qui évolue dans la musique depuis très longtemps. Je crois qu'il a fait il a fait pas mal de compositions aussi pour le cinéma, enfin, je crois. Et donc, tous les deux ont composé cet album Cohorte. C'est en fait, pour le dire vite, un espèce de mélange de musique concrète et quasiment de gamelan, de musique traditionnelle indonésienne. Sauf que c'est fait avec... tous les sons que vous allez entendre, c'est très percussif. Et en même temps, c'est fait avec de la bricole. C'est-à-dire que tous les instruments, c'est pas des cymbales traditionnelles ou quoi que ce soit. C'est plein de bricoles et des trucs. C'est très surprenant d'ailleurs quand on lit au dos de l'album tout ce qu'ils utilisent. Et du coup, il y a un côté en même temps... très expérimental, qui recherche des sonorités, des textures, etc. Et en même temps, il y a un truc dans la répétition, dans la force percussive. On a l'impression de revenir à une espèce de source primaire du son, de ce que pouvait être la musique et la puissance d'une sonorité. Donc voilà, ça paraît au début être quelque chose d'un petit peu rude à l'oreille, ce que j'entends. Au fur et à mesure à écouter ce type de musique, on déconstruit complètement notre rapport à l'harmonie, au son, etc. Et on apprend à réécouter véritablement.
Je pense qu'il doit t'engager, hein, tu l'as bien vendu.
Thank you. Romain.
Voilà, c'était le morceau choisi par l'invité, très percussif. Je prendrai le temps, parce que quand on est immergé dans l'émission, je prendrai le temps quand même de réécouter.
Ah, c'est important, c'est vraiment très très bien. Et c'est un petit label Tourangeau qui a sorti ça et qui a que des très belles choses dans son catalogue. Le label s'appelle Un Je Ne Sais Quoi.
Joli titre. Ouais. Vous êtes bien dans l'artichaut avec André Lemaire, libraire et galeriste. On va évidemment consacrer une partie à ton activité. On va justement aller gentiment vers le présent, mais donc c'est Histoire de l'art à Nantes.
Oui, ouais, c'est ça, une licence en Histoire de l'art.
Qu'est-ce que tu retiens de marquant
Un peu tout là.
C'est vraiment la période riche là.
Oui, c'est parce que quand tu te retrouves à un endroit qui est justement un peu dans ta place, dans ton lieu, qui correspond à tout ce que tu aimes, ce que c'était forcément l'université, c'est ça qui est puissant, quoi. C'est qu'il y a une forme d'émulation et d'apprentissage permanent. On a le cerveau qui boue en permanence. C'est assez jouissif même. Et du coup, moi, j'ai pas eu le sentiment de travailler, mais j'ai travaillé, j'avais plutôt des bonnes notes. Et puis, l'apprentissage était constant, vraiment c'est un truc, c'était de 2006 à 2010, c'était très intense, sans parler des stages que j'ai fait aussi, où il y a eu